Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour après une super entrevue avec Monsieur Lafleur. Et là, on va aborder en fait un petit sujet que je trouve... C'est pas comique, mais j'ai envie de dire comique. Je vais vous laisser, en fait, avant de laisser la parole à ma collègue Noémie, je vais vous laisser sur une citation. Donc, Hydro-Québec dit « Aucune barrière majeure au redémarrage de Gentilly 2
». Ouais, non, exactement. Pas un petit sujet là ce matin là, exactement là comme Jérémy vient de le dire là, Hydro-Québec a récemment mené là une évaluation préliminaire sur la possibilité de relancer la production d'électricité d'origine nucléaire à la centrale Gentilly 2 qui est située à Bécancour. Donc c'est une enquête qui a eu lieu là, cet été dans la centrale là, qui est hors d'usage depuis qui est hors fonction en fait là, depuis le 28 décembre 2012. Elle a fait l'objet d'une analyse par la firme là je m'excuse, je me rappelle plus comment ça se prononce le nom, mais anciennement là, SNC-Lavalin. Peux-tu te rappeler comment il se prononce le nom?
Je suis pas mal certain, c'est Atkins Realist. Okay. Mais je crois que les gens utilisent vraiment, ils disent vraiment Atkins, l'entreprise Atkins. Le Realist, je pense pas qu'il est nécessairement utilisé à chaque fois. Mais sinon, on peut dire SNC-Lavalin, mais c'est sûr qu'ils ont changé de nom pour changer les idées des scandales qui a frappé SNC-Lavalin. C'est juste un rebranding. Là. C'est la même chose.
Parfait. Ben, merci pour cette petite mise au point. Donc, qui avait été, justement, la firme avait été mandatée là, par Hydro-Québec. L'analyse, le contenu de l'analyse a été rendu public. Là, ou, ben, pas public, mais les conclusions, en fait. Là. Le contenu, qu'est-ce qui est contenu dans le document de 4 pages? Là, c'est, en fait, que... qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? C'est qu'aucune barrière, là, comme Jill l'a dit, majeure a été identifiée pour le redémarrage là, de la centrale Gentilly 2. En plus, l'étude suggère là, la possibilité, par ailleurs, d'ajouter de la capacité sur le site, là, sous réserve, évidemment, de résoudre là, certaines capacités, notamment de refroidissement.
Est-ce qu'on sait si il parle justement qu'il y ait de coûts environnementaux là-dedans? Parce que je sais qu'en 2012, une des grosses causes de la fermeture, c'était les coûts environnementaux. Okay, où est-ce que les déchets, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec. On fait juste les enfouir puis ils restent là pendant vraiment longtemps. Mais il y avait aussi tout le tsunami au Japon qui avait joué un rôle, mais quand même...
Ben en fait, c'est ça, là, il y a certains observateurs qui ont remis en question là, la neutralité de la vie qui a été fournie par le fournisseur de technologie parce qu'en fait, là, il y a comme justement, là, pas une espèce de théorie, mais en fait, les démarches ont suscité des interrogations là, par rapport justement au fait que... anciennement SNC-Lavalin était le fournisseur de la technologie nucléaire de CANDU, le réacteur nucléaire à l'uranium. Là. Fait que, ouais, il y a eu justement Jean-Pierre Finet là, du regroupement des organismes environnementaux en énergie qui a remis un petit peu justement la neutralité de la vie de la firme.
Donc, une possible conflit d'intérêts. Encore avec la CAQ?
D'ailleurs, en parlant de conflit d'intérêts, ça me fait très rire. Là. Justement, là, j'ai une belle citation du ministre Fitzgibbon qui a dit qu'il s'intéressait intellectuellement au nucléaire. Je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais vraiment savoir comment il s'intéressait avant au nucléaire, si ce n'était pas intellectuellement. J'espère vraiment que ce n'était pas romantique parce que...
Peut-être plus monétairement.
Peut-être aussi. Bref, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une... drôle de rhétorique pour dire, en fait, oui, qu'il s'intéressait, en fait, au nucléaire. Donc, il dit qu'il s'intéresse intellectuellement pour pas dire qu'il s'engage, justement, à faire des centrales nucléaires. Tu sais, ça a vraiment été, si tu me permets, je pense que je vais continuer un petit peu là-dessus,
oui,
Noémie. C'est vraiment, l'idée, c'est qu'on va avoir des besoins énergétiques monstres, en fait, au Québec, là, dans les prochaines années. Et il y a vraiment une nécessité, en fait, à atteindre ces demandes-là, là. Pour vous donner une idée, il y a 23 000 mWh qui est demandé en fait pour 2050 là. Fitzgibbon, il dit en fait que c'est totalement irréaliste en fait d'atteindre ça. Mais il dit qu'entre 8 000 et 10 000 mWh seraient nécessaires, du moins. Pour vous donner une petite idée, là, toutes ces 23 000 mWh, en fait, ça équivaut à 13 complexes de la Romaine, complexe de la Romaine qui a été inauguré l'année passée. L'inauguration de la Romaine, en fait, c'est un méga complexe hydroélectrique de la baie James. Et en fait, c'est le plus grand de la baie James. La construction a duré de 2009 et 2023. Donc, vous donnez une petite idée, ça a pris assez longtemps et on est supposé en faire 13 comme ça. C'est pour ça que je pense que Fitzgibbon il dit que c'est irréaliste. Pour imaginer un petit peu tous ces chiffres-là, la Romaine, ça permet d'alimenter 470 000 foyers. C'est à peu près l'équivalent de la ville de Québec. Il en faut 13. Il faut 13 fois la quantité d'énergie nécessaire pour alimenter Québec. Donc, c'est pour ça qu'ils parlent en fait du nucléaire. Là. C'est vraiment, d'après moi, c'est qu'ils n'ont aucune solution concrète. Là. Je pense un petit peu ça. Et c'est pour ça qu'ils parlent de refaire peut-être justement le Gentilly 2. Ça fait un petit peu pas de sens non plus parce que la quantité d'énergie produite par l'uranium au Québec, selon la Régie de l'énergie du Canada, il y a des estimations après 2035. En fait, là, c'est dans un contexte d'atteindre aussi la carboneutralité. Là, donc, Gentilly 2 faisait 4 TWh avant sa fermeture. Les prédictions en fait de la Régie de l'énergie, ça serait qu'on atteindrait les 20 TWh dès 2050. On passe de 4 à 20 en nucléaire. Ça serait ça les prédictions en fait au Québec. Donc je suis vraiment curieux de voir comment ils vont faire reproduire Gentilly 2, de la faire passer de 4 TWh à 20. Mais je ne sais pas c'est quoi vos opinions par rapport à ça. Ben, c'est justement un de nos plus gros enjeux là, auxquels on fait face justement au Québec. Je pense que c'est vraiment des enjeux d'énergie. Là. Je sais pas si vous avez des opinions par rapport à ça, peut-être Xavier.
Dans le fond, je ne sais pas si vous avez vu, mais dernièrement, il y a eu une motion qui a passé où est-ce qu'il parlait de faire affaire avec le privé pour qu'eux-mêmes qu'ils fassent leurs propres éoliennes, puis qu'ils fassent, dans le fond, à leurs frais, mais qu'ils puissent subvenir eux-mêmes leur propre énergie. Fait qu'avec un parc d'éoliennes, avec, mettons, la façon... Là, je peux pas dire s'il y avait... c'était juste éolien ou si c'était par d'autres moyens. Mais je sais que ça, justement, il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient inquiétées parce qu'ils disaient que c'était une perte de monopole pour... dans le fond, tout ce qui est énergie avec... c'est ça. En donnant le droit aux entreprises privées qui est de pouvoir manufacturer un peu, même si... Encore là, ils n'auront pas le droit de donner de l'énergie aux particuliers. Ils vont avoir le droit d'échanger cette énergie-là entre compagnies, mais ils ne peuvent pas le donner aux particuliers. Donc, encore ce monopole-là est gardé à l'État pour les particuliers. Mais ça reste. Voilà.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'avenir énergétique de la province là, pourrait être marqué là, par des choix là, cruciaux qui détermineront là, la source et la nature la production d'électricité, excusez-moi, dans les années à venir. Sinon, on irait là, avec une courte pause. C'est ce qui conclut là, notre petite chronique concernant Gentilly 2. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Là. Je crois que ça va être un sujet là, assez chaud à venir.
Oui, c'est sûr. Donc, on va peut-être vous revenir avec ça dans les prochaines semaines. Vous voir qu'est-ce que Hydro-Québec va nous dire par rapport à ça. Peut-être qu'en fait, on est en train de découvrir pourquoi Sophie Brochu a démissionné soudainement et que malgré tout, ça n'était pas une décision politique. L'avenir nous le dira, on verra bien. Donc, on se revoit après une petite pause publicitaire.